Alors, la loi de bioéthique de 2011 avait rendu obligatoire sa propre révision tous les 7 ans, avec même un processus précis, lequel commence par des états généraux de la bioéthique. Et justement, la France est entrée fin 2025 dans ce processus. En effet, si la dernière loi de bioéthique a été adoptée en 2021, le processus de révision avait commencé en 2018. 2025 arrivait donc 7 ans plus tard. En 2011, l'inscription de cette révision périodique était passée comme une lettre à la poste. Je veux dire sans que cela ne soulève d'interrogations ni de débats dans l'espace public. Il est pourtant très étonnant qu'une loi puisse être élaborée, débattue et adoptée avec l'idée qu'elle serait périmée quelques petites années plus tard. C'est d'autant plus étonnant que l'éthique en principe n'évolue pas au fil du temps. Sur le plan philosophique en effet, les principes qui fondent l'éthique sont pérennes. Ce qui a été défini comme une pratique respectueuse de l'éthique, le reste. Et ce qui a été défini comme une pratique contraire à l'éthique, le reste aussi. C'est pourtant le Sénat lui-même qui avait souhaité inscrire dans la loi ce caractère périssable. Et c'était même à l'initiative de sénateurs plutôt conservateurs. Et c'est au dernier moment qu'à force d'insistance, ils avaient convaincu les députés de se ranger à leur avis et d'adopter le principe de cette révision tous les 7 ans. Comment comprendre cela? En fait, en 2011, les députés voulaient absolument libéraliser l'utilisation de l'embryon humain pour la recherche. Des sénateurs, pour l'éviter, tout comme d'autres mesures dont ils ne voulaient pas, avaient donc renvoyé à plus tard, en proposant de se reposer à la question lors d'une révision à venir. Ils espéraient, un peu naïvement, que le sujet serait oublié. Ils avaient aussi à l'esprit, à juste titre bien sûr, le principe de précaution. Pour eux, il fallait d'abord être certain de ne pas porter atteinte à la dignité humaine, de ne pas causer tort à autrui, avant d'envisager de légaliser telle ou telle pratique. Il fallait donc savoir prendre son temps. Sauf que de leur côté, les députés avaient finalement accepté cette idée parce qu'ils avaient compris au dernier moment qu'ils pourraient l'utiliser au profit de leurs revendications dans le domaine de la recherche, mais aussi en matière sociétale. À l'époque, je l'ai dit, cela avait été généralement perçu comme légitime. En effet, les innovations scientifiques et médicales relativement fréquentes semblaient justifier des révisions régulières. Elles permettraient de poser les limites nécessaires, voire d'interdire telle ou telle nouvelle pratique. C'est en tout cas ainsi que cela fut présenté. Hélas, la révision de la loi de bioéthique est systématiquement l'occasion, non pas d'évaluer des innovations du point de vue éthique, mais de revenir sur des pratiques qui n'ont rien de nouveau et d'abaisser à chaque fois le niveau d'exigence éthique. Alors la révision de la loi de bioéthique ne s'intéresse donc pas en réalité aux innovations scientifiques et médicales, me direz-vous. Elle s'y intéresse, mais en réalité à la marge. L'essentiel de chaque révision de la loi de bioéthique porte en effet à chaque fois sur des pratiques déjà examinées précédemment. Je prends l'exemple de la PMA, de la procréation médicalement assistée. En 1994, la loi de bioéthique avait autorisé la PMA pour les couples stables, vivants, en âge de procréer et souffrant d'une infertilité médicalement constatée. En 2021, la PMA a été ouverte aussi aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est-à-dire sans motif d'infertilité, médicalement constaté. Ainsi, depuis 2021, la PMA n'est plus un moyen de pallier la fertilité d'un couple qui, normalement, devrait pouvoir avoir un enfant. Et la médecine n'est plus dans sa finalité. Elle est devenue, dans ce domaine, une prestation de service. Une prestation qui, hélas, prive des enfants de père pour toujours. Une prestation aussi qui a conduit à créer une filiation fictive puisque depuis, un enfant pourrait prétendument avoir de mère. Et cette fois-ci, pour la prochaine révision de la loi de bioéthique, il est question d'ouvrir la PMA au couple dont l'un des membres est décédé mais dont les gamètes avaient été cryoconservés. C'est ce qu'on appelle la PMA post-mortem. Ainsi, les évolutions techniques en matière de PMA sont modestes, presque marginales, mais le législateur revient quand même dessus dans un objectif sociétal. Et le processus est donc à chaque fois le même puisqu'il a été défini en 2011 avec ses états généraux de la bioéthique organisés à chaque fois par le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Et c'est bien l'un des problèmes. Le CCNE, en effet, est composé de membres presque tous nommés par le président de la République, le gouvernement, les présidents des assemblées, etc. Cette instance, supposée être la boussole éthique de nos gouvernants et du législateur, n'est donc pas indépendante du politique, loin s'en faut. Cela explique évidemment les changements de position du CCNE. Sur la PMA, il a d'abord été opposé au fait que l'on prive sciemment des enfants de père, et puis il s'y est accoutumé, si je puis dire, et jusqu'à être aujourd'hui favorable à une éventuelle légalisation de la PMA post-mortem. Mais le pire, c'est que le CCNE, cette fois-ci, a inscrit la gestation pour autrui parmi les sujets de débat des États généraux de la bioéthique 2026. Une perspective très inquiétante qu'il faut absolument tuer dans l'œuf. Alors comment faire pour donner un coup d'arrêt à ce projet ? Le plus urgent, c'est de participer aux États généraux de la bioéthique 2026, puisque les Français y sont invités. Et en l'occurrence, je recommande aux auditeurs de Radio Courtoisie d'insister tout particulièrement sur la gestation pour autrui, la GPA. Celle-ci est en effet une forme d'esclavage de la femme et de l'enfant, puisque les commanditaires disposent d'eux comme s'ils en étaient les propriétaires et puisqu'elle génère en conséquence un trafic international d'êtres humains. Pour vous adresser au Comité consultatif national d'éthique, dans le cadre de ces États généraux de la bioéthique 2026, rendez-vous sur notre site du Syndicat de la Famille. Vous y trouverez toutes les informations.